On s'en va rejoindre au bout du fil à partir de la Floride. Steph Carr, salut, comment vas-tu?
Ça va bien, Nick.
Steph, nouvel extrait, Swing la Mama de ton album 25, extrait qui parle, entre autres, des belles mamans. Comment est arrivée cette chanson-là d'abord?
C'est un fait assez cocasse, surtout à mon âge, je dois dire. Il y a trois ans, je venais rencontrer une femme là, qui vraiment représentait la femme de mes rêves. Et puis, je sais pas, je me disais à mon âge, je sais pas si ça existe encore, je sais pas si j'y croyais encore plutôt. Mais j'étais tellement attiré vers cette fille-là, puis je voulais que ça marche, qu'au moment de nos premières rencontres, je me rappelais ce que mon père me disait quand j'étais jeune, j'allais lui demander des conseils avec des filles. Il me disait toujours, mon gars, si tu veux gagner la fille, il faut que tu gagnes le cœur de la mère. Et puis, c'est drôle, hein, parce que c'est moi, on me disait ça quand j'étais adolescent, mon père.
Ah oui.
Ça. Et puis là, j'ai pas honte de dire que j'ai dit, je vais essayer la tactique de mon père. Ça a donné que j'ai rencontré sa mère. Et puis, en bon Québécois, j'ai été le vrai terme, c'est d'être un bon têteux. Hein? J'ai amené un petit cadeau de temps en temps. J'étais gentil avec la mère et tout. Puis finalement, avec de ça est née la chanson Swing la Maman. Et je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais
oui.
ça décrit très, très bien les événements qui se sont passés.
Et la technique a marché.
Pardon?
Et la technique a marché.
La technique a marché. Écoute, ça fait 2 ans qu'on est mariés. C'est vraiment la femme de mes rêves. Fait que, mon père est décédé il y a plusieurs années, mais il me laissait un bel héritage. Hein?
C'est extrait de l'album 25, parce que tu as voulu célébrer les 25 ans de cette carrière-là, les 25 ans depuis qu'on te connaît, en tout cas avec le Achy Breaky Dance. Pourquoi c'était important de revenir avec un disque pour les 25 ans?
Ben, j'ai souvent dit ça quand les gens me demandaient en 2000, moi c'est longtemps, je suis parti en 97,
ouais.
Du Québec, et puis à ce moment-là, le personnage avait dépassé l'artiste, j'avais besoin d'un petit peu de savoir qu'est-ce que j'étais pour faire à la suite. Et puis, ça a été des années assez difficiles, des années de vache maigre, qu'on peut dire. Mais néanmoins, à un moment donné, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Ce genre de carrière-là, c'est comme une montagne russe, j'ai toujours dit. Mais à un moment donné, en 2017, plus récemment, il y a 3 ans, il y a Péan Méthode qui m'avait appelé pour être un de ses invités dans son show country au Centre Bell. Et puis finalement, au début, ben je dis, je sais pas si ça me tente vraiment, parce que je pense pas, ça fait trop longtemps que je suis parti. Je sais pas si les gens vont se rappeler de moi, ça fait tellement longtemps. Finalement, il était très persuadif, et puis j'ai dit, ben oui, je vais le faire. Puis il m'a permis de faire une chanson que je venais d'écrire contre l'intimidation. Et j'ai dit, je vais présenter ça en même temps. Puis finalement, l'accueil a été tellement chaleureux des gens au Québec, puis c'est comme... Ça m'a fait plaisir. En Québécois, là, j'étais vraiment touché de voir que les gens se rappelaient encore. Parce que ça fait tellement longtemps, là, tu sais, que je me suis dit, ben là j'ai repris la piqûre, j'ai dit, j'aimerais ça. Leur montrer que moi aussi, je ne les ai pas oubliés. Puis revenir avec la chanson, on a fait un remix de la chanson, talent juste à Nashville. Et puis on a fait une vidéo ici en Floride, comme un petit peu 25 ans plus tard. Puis la vidéo... C'est drôle parce que la vidéo, je fais le rôle au début d'un curé dans la vidéo parce que en voulant dire que la chanson, il y a plusieurs années, elle me laissait un mot sur l'oreiller et puis elle essayait pas de me retrouver, tu sais. Fait que c'est comme si le gars, il a arrêté, il a dit, OK, je poursuis plus personne, puis il a changé de vocation, puis finalement, durant la vidéo, on s'aperçoit que le curé, il tombe en amour d'une fille, puis là, il recommence à danser la danse. Fait que c'est assez drôle. Ça a été quelque chose que je voulais faire avec un petit clin d'œil. C'est quelque chose pour faire sourire les gens.
Quel regard tu as sur ces 25 ans, ces 25 années-là qui ont été faites de haut et de bas, évidemment?
Ben, écoute, c'est dans tout dans la vie. Là, là en ce moment, tout le monde est dans le même bateau. Hein,
évidemment, oui.
On est tous, sur un territoire qui est complètement étranger. On n'a jamais vu une affaire comme ça. Mais la vie, c'est ça. Des fois, à un moment donné, ça prend des réajustements. Quand je suis parti en 97, là, Luc, ça a été un temps difficile parce que j'ai commencé ma carrière, moi, puis j'étais très... je sais pas si c'est un bon terme en français d'utiliser, mais j'étais très vert. C'est-à-dire que tout ce qui m'intéressait, c'était de chanter. J'étais pas un homme d'affaires. Je savais pas ce qui se passait. Mais l'équipe derrière et autour de moi, ils ont fait beaucoup de sous. Puis moi, je suis parti avec pratiquement rien. Et puis, c'était moi qui travaillais tous les jours, là, tu sais.
Oh oui.
Disons que je suis allé à l'école, là. C'était une grosse école. Un collège et une université en même temps, tout combiné. Oui. Mais je me suis retrouvé à Nashville en 97 à dormir dans ma voiture. Puis me nourrir au Wendy, au menu d'un dollar chez Wendy. Ça fait que ça a été des années que, moi j'appelle ça formatrice, c'est-à-dire que à un moment donné, quand t'es devant la réalité, tu poses la question, ben écoute, je suis ici, pourquoi? C'est quoi le but de tout ça, là? T'sais, finalement, ça a été, même si c'était difficile, c'est des affaires que je suis content d'avoir vécues. Parce que c'est sûr que ça m'a équilibré d'une façon à savoir vraiment pourquoi je fais ce métier-là, pourquoi je fais ce que je fais, et puis pourquoi je poursuis. Et puis, étant donné que moi, je ne pouvais pas me voir faire d'autres choses, j'ai toujours écrit de la musique, et finalement, ben, ça m'a amené à de belles aventures, tu sais, c'est-à-dire que c'était difficile au début, mais finalement, à un moment donné, tu remontes la pente, et puis il se passe des belles récompenses à travers ça.
Tu as écouté beaucoup de styles de musique étant plus jeune. Pourquoi le country? Comment ça t'a amené au country? Est-ce que ça jouait chez toi, le country?
Oui, oui. Mes parents, c'était comme tu l'as dit, j'ai grandi avec la musique country, avec la musique d'Elvis. Mon père, c'était un fan d'Elvis. Ma mère, elle aimait le gospel. Et puis ma grand-mère, qui était ma gardienne officielle, qui était notre voisine, elle chantait l'opéra. Et donc, mes grands-oncles, on a des vieux disques, 78 tours, des chanteurs d'opéra. Donc, ça fait partie de mon héritage et mon bagage musical. Et donc, j'avais un entraînement classique à la base à cause de cela. Et puis, mais pourquoi le country? C'est parce qu'à un moment donné, ça fait vraiment partie de mes racines également. À me dire, mon père habitait à Montréal. Et puis, dans le petit terrain qu'on avait, on avait un poney, on avait des animaux. Et puis, finalement... Je sais pas si tu te rappelles, Luc, je sais pas si t'es assez vieux, tu te rappelais de ça, mais il y avait un show qui s'appelait Les Arpents Verts.
Oui.
Quand j'étais jeune. Et puis c'était vraiment l'histoire, moi je peux te dire, là, c'était l'histoire de ma famille. Parce que mon père est arrivé en campagne, on a acheté une vieille maison qui était bâtie en 1905, je crois, à l'époque pour 6 000 $.
OK.
Et puis il a fait une ferme avec ça, et puis en tout cas, je sais pas comment on a tant dans l'entrevue, mais je pourrais t'en parler des faits cocasses qui ressemblent justement à l'émission de l'enfant vert. Donc, ayant grandi là-dedans, ça fait partie de mes racines. J'ai toujours eu un cheval quand j'étais jeune. Et puis, on a toujours été près des animaux. Donc, c'est un petit peu... Ça fait partie de tout ce que je suis.
Ce qui est particulier, c'est que tu parles des racines de l'opéra et de gospel. Ce que tu as fait après... un peu plus tard dans ta carrière. Donc, tu as touché un peu à toutes les racines avec lesquelles tu as grandi en musique.
Oui, mais dans une période de 25 ans,
ouais, c'est
le temps de faire le tour de la boucle. Hein?
Oui, mais souvent, on est cantonné dans un style puis on ne va pas vers autre chose. Toi, tu as touché un peu à tout.
Ouais, ça a été quelque chose d'important pour moi. C'est un peu pour ça que je m'étais exilé en 1997, excuse-moi. J'avais besoin de savoir aussi qu'est-ce que je voulais faire à travers ça. Parce qu'à un moment donné, je pense que la plus grosse bataille qu'on a tous à vivre, en tout cas dans mon cas, c'est toujours une bataille contre nous-mêmes. Hein. Savoir, c'est à prouver à nous-mêmes ce qu'on peut faire et on apprend à se connaître davantage de cette façon-là. Et puis, j'avais le goût de visiter ces territoires-là, mais ça faisait partie de qui j'étais. Et on a fait un album... À un moment donné, ce qui est arrivé avec le Papaya, je veux dire comment c'est arrivé, c'est qu'en 99, en Floride, il ouvrait la ville, en fait, une copie de la ville Portofino.
OK.
La ville en Italie. Il ouvrait ça à Universal Studio. Il devait avoir Andrea Bocelli. Et puis, au moment où il était énorme, en 99, je pense, c'est ça, ouais. Et avec Time to Say Goodbye, finalement, il ne pouvait pas avoir Bocelli à la dernière minute. Il s'est cancellé. Je ne connais pas toute l'histoire, mais mon gérant, qui était celui qui bookait les événements à Universal Studios, m'avait déjà entendu chanter des vocalises et faire des pièces plus classiques. Donc, il m'avait dit, est-ce que tu peux faire du Bocelli? Puis ça, je te parle d'une période où j'avais bien faim. Hein? J'étais très affamé. C'est-à-dire que j'ai dit oui, oui, oui. Mais honnêtement, je ne savais pas c'était qui Bocelli.
Okay.
En 99. Et puis, finalement, j'ai fait trois chansons de Bocelli. Et c'est moi qui ai ouvert l'ouverture de Portofino Il y avait le maire de Portofino qui nous a fait un standing ovation. Et puis, je peux te dire que j'étais tellement nerveux. Là. Il y avait un podium devant moi. Puis, une chance parce que mes genoux claquaient. Là. Ça paraissait pas trop dans la voix. Mais je peux te dire que ça a été un des moments où j'ai été le plus nerveux. Mais ça a fait un tournant où je me suis dirigé après ça à faire des spectacles à Las Vegas. Et puis, on a fait des ouvertures de certains artistes américains ici, comme Cyndi Lauper. Ça m'a amené à un show sur PBS en 2005, je crois. Après ça, il y a eu d'autres tournants. Là. À un moment donné, ça a viré au gospel.
Oui, comment c'est arrivé le gospel? Parce qu'il y a eu My Shining Hour en 2017.
Oui, 2017. Ça, c'est un moment, j'étais à Vegas de 2013. J'ai fait beaucoup de spectacles aux Vénitiens. Et puis... J'étais vraiment tanné à ce moment-là. Je me suis tanné de faire la même chose. Et puis, peut-être ça fait partie de ma personnalité. C'était pour ça que j'ai eu tant de changements. Parce qu'à un moment donné, je me tanne à faire la même chose. Et puis, je me suis dit, j'aimerais ça faire quelque chose de nouveau. Faire quelque chose de gospel. Et puis, j'ai dit, je vais produire un spécial télé. Et j'aimerais ça faire ça. C'est une idée qui m'est arrivée comme ça. Et puis, je vais projeter un spécial télé. Et ça va me prendre peut-être 6 mois à le produire. Parce que je travaille beaucoup en vieillissant. J'ai appris beaucoup à travailler derrière la caméra. Que je dois te dire que je probablement préfère même encore le travail derrière la caméra que devant.
Okay.
Mais, tout ça, je pensais que ça allait me prendre 6 mois. Finalement, ça m'a pris 3 ans à produire. 3 ans et demi. Et puis, on est allé en Israël filmer ça à certaines parties en Madagascar, en Afrique. On a filmé certaines scènes au Canada, aussi aux États-Unis. Et puis, ça a été prêt vers le 2017. J'ai commencé ça en 2013. Puis ça s'est fini vers l'été. La présentation a été, je pense, justement après le Centre Bell. Ça a été présenté en juillet ou en août, je crois, en 2017, sur les réseaux Gospel américains. Et puis, ça a été le fun de faire ça, je dois dire.
Et là, est-ce que la production télé, c'est encore quelque chose qui t'habite? Est-ce que c'est encore quelque chose sur lequel tu travailles?
Oui, en ce moment, on travaille. Je suis très actif avec la... Ben là, c'est sûr qu'on en fait moins d'écoles avec tout ce qui s'est passé. Ouais. On faisait beaucoup de présentations contre l'intimidation dans les écoles. Et puis, j'ai filmé un commercial incluant une chanson qui s'appelle Awesome avec ça, que j'ai aussi traduit en français. Mais on prépare un spécial télé pour les réseaux Netflix avec cette campagne-là qui s'appelle « Why I Count », « Pourquoi je compte ».
Et l'intimidation, c'est quelque chose que tu connais parce que tu as vécu ça enfant. Pourquoi tu as voulu aller parler de ça aux jeunes dans les écoles?
Bien, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que dans le projet « My Shining Hour », j'avais une chanson que j'avais écrite qui s'appelait « Awesome » puis elle ne fitait pas vraiment. Mais une de mes amies m'avait envoyé une lettre d'un jeune garçon de 14 ans qui s'était suicidé dû à l'intimidation. Et puis, ça m'a vraiment hanté. Ça m'a ramené premièrement en arrière au fait que quand j'étais jeune, j'ai été intimidé. Mais je me disais, quand on était intimidé, dans mon temps, à moi, je veux dire, c'est comme il y avait 2-3 gars qui le savaient, puis ça finissait là, tu étais en sécurité quand tu arrives à la maison. Mais je me demandais, pour quelle raison aujourd'hui ça les amène au suicide? Et puis, donc, parce que c'est vraiment maintenant la cause principale de suicide, l'intimidation chez les jeunes de moins de 14 ans. Fait que là, ça m'a donné pas mal de jus à vouloir à faire quelque chose. Et j'avais une chanson qui s'appelait « Rassemble », qui veut dire, justement, dans le contexte gospel, que tu étais créé d'une façon géniale et que chacun a quelque chose de différent à porter. Fait que j'ai pu me servir de ce message-là pour faire une vidéo, puis m'emmener avec une campagne qui m'a emmené dans plusieurs écoles aux États-Unis, puis... Juste avant le COVID, on devait venir en avril au Québec et finalement, évidemment, c'est remis. Mais c'est vraiment ce qui a débuté ça. Je me disais, je voulais faire quelque chose parce qu'écoute, quand tu vois qu'un jeune, il y en a juste à 8-9 ans qui se suicide à cause de l'intimidation. C'est une bataille qui est complètement différente à ce qu'on avait quand on était jeune parce que on était intimidé à l'école, mais la maison était un endroit sûr. Tandis qu'aujourd'hui, les jeunes, l'intimidation, ils poursuivent jusqu'à la maison avec leur téléphone, avec l'ordinateur, avec les réseaux sociaux. Et donc, ils n'ont pas vraiment un endroit sûr pour eux. Et en plus, les jeunes sont souvent plus laissés à eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas vraiment une connaissance de qui ils sont, de ce qu'ils peuvent faire. Et de leur valeur, en fait. Donc, cette campagne-là, c'est vraiment dans le but de valoriser l'individu. Et puis, parce qu'il y a une grande, un grand manque à ce niveau-là. Le jeune, l'estime de soi, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu regardes un jeune, il va mettre une photo sur Facebook, ici en l'espace, ou sur Instagram, ou TikTok, si en l'espace de quelques minutes, il n'y a pas de j'aime, il l'enlève en pensant que les gens ne l'aiment pas. Donc, ça devient un petit peu son identité. Et donc, c'est triste de voir ça. Fait que c'est ça qui a un peu démarré cette campagne-là.
Mais d'aller dans les écoles, qu'est-ce que ça t'a apporté, ces rencontres-là avec ces jeunes-là un peu partout?
C'est probablement ce que j'ai fait de plus valorisant. Parce qu'à un moment donné, on ne fait pas juste les écoles, je suis allé dans des endroits de délinquants également, les jeunes. Quand je suis arrivé là, ils me regardaient tout comme « qu'est-ce que tu viens faire ici? » en fait.
Ouais.
Finalement, de voir à la fin de la session, ils dansaient tout. Et puis, tous les jeunes étaient embarqués dans le programme. Et puis ça, je peux dire que ça s'achète pas, là, quelque chose comme ça, parce qu'à un moment donné, quand tu fais un projet, puis que t'es vraiment passionné, et que c'est sincère, quand tu vois que ça porte un certain fruit, je vais dire de quoi, c'est la plus belle récompense, je peux dire, au niveau personnel et émotionnel, qui justement justifie la raison que j'ai fait ce métier-là.
Ah, t'aimerais-tu ça le présenter au Québec, éventuellement?
Ben oui, j'étais venu voir certaines commissions scolaires en février, et puis on avait déjà des présentations de cédulés en avril, mais avec le COVID,
ouais.
Ça s'est tout cancellé. Donc on va voir ce qui... parce que j'ai travaillé à faire cette présentation-là en français également.
Et là, avec l'album 25, est-ce qu'il y a projet... Évidemment, là, tourner, c'est difficile, mais est-ce qu'il y aurait projet de tourner au Québec avec ce disque-là?
Bien, on avait un gros projet de tournée. Il y a plusieurs spectacles qui ont été cancellés, comme la plupart des artistes d'ailleurs. Mais on avait une tournée qui est toujours prévue si on se sort de ce fléau. Hein.
Ouais.
La tournée, ça s'appelle Let's Dance, et ça va être vraiment axé sur la danse. Qui, en passant, soignement, c'est une nouvelle danse là, qu'on
ouais.
a fait également pour ça.
Donc, les gens vont apprendre? Une nouvelle danse, ça te fait quoi à chaque fois? Par exemple, avec Breaky Dance, ça te faisait de quoi de voir les gens apprendre les pas devant toi, danser devant toi?
Ben, c'est le fun. C'est juste la seule affaire qui me dérangeait quand je suis revenu. C'est que je me disais, c'est que la plupart des gens qui me rencontrent, ils me disent « Ah, j'ai dansé sur ta danse quand j'avais 4 ans.
»
Et là, c'est sûr que c'est une claque d'en face. mais de l'autre côté, je suis pas si vieux que ça. Là. mais c'est le fun. Quoi, quand tu peux... Peu importe ce que tu fais, quand que tu t'aperçois que ça a eu un impact,
ouais.
c'est une sorte de justification. Tu sais, quand je te parlais tout à l'heure dans la voiture, à un moment donné, tu te demandes pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais. Fait que c'est sûr qu'on cherche tout un petit peu à avoir une preuve ou un raisonnement de notre existence. Et donc, c'est très valorisant, ces choses-là, pour moi en tout cas.
Je sais que dans le parcours, il y a eu le travail avec Donna Summer pour la chanson pour les Jeux olympiques spéciaux. Qu'est-ce qu'elle a apporté, si elle a apporté quelque chose dans ton parcours, Donna Summer?
Mais Donna Summer était très gospel également. Elle avait beaucoup de dance, mais je me rappelais qu'elle m'emmenait à l'église le dimanche et puis on a fait beaucoup de choses ensemble. Moi, c'était le premier 45 tours que j'avais acheté, c'était Donna Summer. Fait que c'est sûr qu'au début, j'étais un petit peu plus ou moins intimidé, mais finalement, elle m'a mis très à l'aise et, parce que le studio était dans sa maison.
Okay.
Donc, tu arrives c'est un palais plutôt, pas une maison. Et donc, mais ça a été vraiment une belle rencontre et son mari, on a écrit des chansons ensemble, moi et son mari, il a produit plusieurs pièces pour moi. Lorsqu'elle est décédée, j'étais à Vegas, j'étais au Vénitien, puis elle m'avait invité pour Noël. Finalement, j'avais pas pu y aller. Elle croyait qu'elle avait eu le cancer, justement, dû au 11 septembre 2001, parce qu'elle était à New York durant cette explosion-là.
OK.
Puis que les gaz qu'elle avait absorbés étaient pas loin de ça. C'est ce qu'elle croyait à la fin qui lui avait apporté ce cancer-là.
Steph, si les gens veulent te suivre, c'est sur les réseaux sociaux. J'imagine qu'on peut voir tous les détails et voir le clip de cette nouvelle chanson-là aussi.
Ouais, sur YouTube, tu vas voir, c'est Steph Cars Up TV. Vous allez pouvoir voir les clips, un petit peu ce que je fais ici. T'sais. Vous allez pouvoir la campagne aussi contre l'intimidation. Il y a des vidéos en anglais et il y a celui en français également.
Et on peut même voir une vidéo avec des images de ton mariage.
Oui, oui.
Pourquoi tu as voulu mettre ça sur YouTube?
Ben écoute, quand tu trouves quelqu'un, là, quand je t'ai dit tantôt, là, j'y croyais plus à mon âge, Luc. Et puis quand que tu vis quelque chose de beau, tu veux que tout le monde le voit, tu sais. À un moment donné, je pensais pas de vivre quelque chose comme ça. Alors je lui étais rendu. Et puis disons que c'est comme je voulais le célébrer avec tout le monde. En même temps, c'est comme si tu viens d'avoir un beau bébé, là, d'un côté, là. C'est comme tu veux montrer la face de ton bébé à tout le monde. C'est un petit peu ce qui me drivait. On a filmé la cérémonie, évidemment. Et puis c'était un de mes chums, on a filmé ça sur son ranch. Il y a un ranch, là, mon ami, là. J'ai tellement tourné de clips sur son ranch, là, parce que tu regardes à gauche, c'est une place extraordinaire. À droite, là, peu importe où tu regardes, c'est un tournage. C'est. Et donc, on a filmé ça là, puis finalement, je vais venir passer une lune de miel au Québec pour permettre à ma femme de découvrir le Québec. Donc, on est allé dans le Vieux-Québec, et puis donc, on a inclus ça dans le clip.
Ben Steph, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Merci de penser à moi.
Ben, ça fait plaisir.
Une tournée.
Merci. Passe une belle journée.
Félix.
Bye bye.
Toi aussi, même.